En général, c'est quand quelque chose n'est pas passé, qu'on l'a pas digéré, qu'on a envie de tout renvoyer. Mais ça peut aussi arriver devant une scène particulièrement répugnante, comme la vue d'une personne accidentée ou qui s'est suicidée avec ses chairs ou la matière grise étalée un peu partout. Ce phénomène de répulsion peut donc avoir une origine psychologique autant que physique. Et c'est ce que le Seigneur ressent devant la conduite des chrétiens de Laodicée. Je continue à lire la lettre à cette église dans le chapitre 3 de l'Apocalypse. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Verset 16. Une église bouillante, spirituellement vivante, est ce qu'on appelle fondamentaliste. Mais c'est un vilain mot dans notre société où la correction exige qu'on accepte tout le monde et toute forme de comportement dans tous les domaines. Les membres d'une église vivante croient que les Écritures sont la parole de Dieu et donc que son enseignement est la vérité, même s'il blesse les âmes sensibles. Et ce qui heurte le plus cette sensibilité est la confession de foi des croyants authentiques concernant le salut. En effet, que ce soit ceux qui croient en rien ou les gens religieux, ils ne peuvent pas accepter que Jésus seul puisse ouvrir la porte du paradis et que les autres fondateurs de religion ne soient que du vent. Cette intolérance leur est insupportable. Une église froide est par exemple une assemblée unitarienne. Elle ne veut pas de Jésus-Christ et ne s'en cache pas. Ses membres ne sont pas hypocrites vis-à-vis du Seigneur. Ils le considèrent simplement comme un grand homme parmi d'autres, un point c'est tout. Ils sont aussi pour la tolérance, tous azimuts, car pour eux c'est la vertu suprême. Ils invitent des dignitaires représentatifs de toutes les religions possibles et imaginables, car ils pensent que tous les êtres humains peuvent contribuer au bien de l'humanité. Bien sûr, il y a quand même une exception à cette embrassade universelle, car la tolérance a ses limites. Ils refusent de converser avec des croyances authentiques, les fondamentalistes, parce que selon eux, ce sont des fanatiques. Curieusement, ils n'ont pas ce problème avec les terroristes. Les tièdes sont pires que les froids parce que ce sont des hypocrites qui jouent à la religion, un peu comme les pharisiens arrogants et imbus d'eux-mêmes, qui méprisaient le petit peuple, mais qui se faisaient mousser parce qu'ils suivaient des règles de vie très strictes, absolument sans valeur, puisqu'ils les avaient fabriquées de toutes pièces. Ils ne manquaient pas de zèle, mais ils étaient très mal placés. De cette sorte de gens, l'apôtre Paul dit « Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Les tièdes préfèrent leur propre tambouille. Bien qu'ils clament haut et fort accepter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, en réalité, ils lui sont parfaitement indifférents. Ça ne leur fait ni chaud ni froid. Ils sont donc tièdes. Que ce soit la pratique rigoureuse des pharisiens ou la religiosité superficielle répandue de nos jours, c'est du pipi de chat. Je suis un peu choquant, j'en conviens, mais le Seigneur l'est bien davantage. En fait, il est brutal quand il réprimande l'église de Laodicée et lui dit sans prendre de gants « Je vais te vomir de ma bouche ». Cependant, et tout bien considéré, les chrétiens de Laodicée ont la chance que le Seigneur condescende à leur dire comment il les voit, car il aurait tout aussi bien pu les écarter de ses pensées et les punir sans les avertir. Mais maintenant qu'ils ont l'opportunité de pouvoir regarder la dure vérité en face et de s'amender, tout n'est pas perdu pour eux. Je continue la lettre. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. Verset 17. L'évaluation que fait Jésus de la situation des membres de l'église de Laodicée est aux antipodes de leur analyse. Voilà pourquoi le Seigneur les reprend si vertement. Le vocabulaire misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu est dur. Non seulement cette église est tiède, mais aussi aveugle. Ces chrétiens se leurrent sur leur véritable état spirituel parce qu'ils le confondent avec leur richesse matérielle. En effet, comme je l'ai déjà fait remarquer, à cette époque, Laodicée était une ville prospère, ce qui procurait aux chrétiens un faux sentiment de sécurité. Non seulement ils sont riches en or, mais comme ils ont épousé l'hérésie gnostique, ils s'imaginent avoir atteint un degré de connaissance supérieur par rapport aux croyants qui acceptent simplement la personne et l'œuvre de Jésus sur la croix. Aveuglés par l'orgueil, ils ne voient pas qu'ils n'ont même pas compris les éléments de base de la foi et surtout la grâce de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit à cette église « Tu es misérable et pitoyable, pauvre, aveugle et nu. » Comme beaucoup de pseudo-chrétiens, ceux de Laodicée se dupent eux-mêmes et Jésus pourrait leur dire « Vous m'appelez maître, mais ne m'obéissez pas. » Vous m'appelez lumière, mais ne me voyez pas. Vous m'appelez le chemin, mais ne me suivez pas. Vous m'appelez la vie, mais ne me choisissez pas. Vous m'appelez sage, mais ne m'écoutez pas. Vous m'appelez agréable, mais ne m'aimez pas. Vous m'appelez riche, mais ne me demandez rien. Vous m'appelez noble, mais ne me servez pas. Vous m'appelez la vérité, mais ne me croyez pas. Vous m'appelez le Tout-Puissant, mais ne m'honorez pas. Vous m'appelez juste, mais ne me craignez pas. Alors, si je vous condamne, ne vous plaignez pas. L'église de Laodicée est l'inverse de celle de Smyrne à qui Jésus a dit « Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. » Ces croyants-là étaient dans la misère noire, proche de l'état de mendicité, parce qu'ils étaient soit esclaves, soit citoyens, qui avaient été destitués de tous leurs biens par leurs persécuteurs. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens « Considérez donc votre situation, frères. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelés à lui ? On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Pourtant, selon la perspective divine, les croyants de Smyrne sont riches parce qu'ils ont véritablement cru en Jésus-Christ et se sont appropriés toutes les promesses de Dieu. L'église de Smyrne est l'exemple type de la richesse spirituelle qui est l'héritage des églises qui souffrent mais sont fidèles au travers de l'histoire. Je continue la lettre à l'église de Laodicée. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité, et un collyre pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Verset 18. Cette assemblée de Laodicée est typique de beaucoup d'églises dont je ne citerai pas le nom, mais qui n'ont pas du tout conscience de leurs besoins spirituels et qui donc se contentent de beaux édifices, de rites et d'une liturgie. Leurs membres viennent de temps en temps faire leurs devoirs vis-à-vis d'un Dieu hypothétique et le reste du temps agissent comme s'ils n'existaient pas. L'église de Laodicée ne reçoit aucun compliment de la part du Seigneur, mais se fait sévèrement critiquer. Sa misère, cachée par ses prétendues richesses, est un avant-goût de la description de Babylone qui sera faite plus loin dans le livre. Si les chrétiens de Laodicée ne changent pas, ils seront jugés en compagnie de Babylone. Étant donné ce que nous savons de la ville antique de Laodicée, les conseils de Jésus s'appuient sur ses trois pôles économiques, ses célèbres institutions bancaires, son industrie textile, et en particulier une laine teintée en noir renommée, et troisièmement, sa faculté de médecine et le célèbre collyre produit dans la région. Le premier conseil de Jésus est d'acheter de l'or purifié au feu, parce que par définition, il est exempt d'impureté. Cet or représente les vraies valeurs comme la foi authentique et une vie consacrée au Seigneur. L'apôtre Pierre écrit « Beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui résiste à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » L'exhortation du Seigneur rappelle aussi celle du prophète Ésaïe qui écrit « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. » Il faut dire que l'homme pécheur n'a rien à offrir au Seigneur. Mais s'il s'humilie devant lui, reconnaît son triste état et l'accepte comme sauveur, il recevra la justice et la vie éternelle. Le second conseil du Seigneur à l'église de Laodicée est « Achète des vêtements blancs pour te couvrir. » Étant donné que la ville produisait une laine noire, Jésus joue sur les mots. Ce vêtement blanc représente la pureté, la sainteté et la justice, les vertus dont sont revêtus tous ceux qui font confiance au Seigneur. Finalement, Jésus conseille aux chrétiens de Laodicée d'acheter un collier qui guérira leur aveuglement spirituel, leur incompréhension des vérités élémentaires du christianisme. En fait, ces gens ont les mêmes besoins que les non-croyants. En effet, quand Jésus a donné son ordre de mission à l'apôtre Paul, il lui a dit « Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des païens vers lesquels je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. » De toute évidence, l'église de Laodicée était un amalgame hétéroclite composé d'une masse de faux chrétiens parsemés de quelques véritables croyants. Je continue la lettre. « Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et repens-toi. » Verset 19. Bien que cette église laisse grandement à désirer, dans un acte de clémence, le Seigneur la considère comme lui appartenant, ce qui signifie qu'il a bien l'intention de corriger ses croyants s'ils ne s'amendent pas. Un proverbe dit « Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qu'il aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. » Si ces chrétiens veulent échapper au jugement, ils vont devoir se ressaisir et le premier ordre du jour est la repentance. Cet acte en direction de Dieu est un mouvement intérieur, un retour sur soi et la prise de conscience que je suis sur une fausse piste. Je suis un pécheur ignoble et coupable devant Dieu. Je mérite sa colère et son châtiment. Je réalise que je suis affublé de péchés qui me tiennent enserrés dans leurs liens et j'aspire à être délivré. C'est tout ça, la repentance, mais pas forcément dans cet ordre. Fais donc preuve de zèle, dit le Seigneur. Ce mot qui a donné zélote veut aussi dire brûlant. Littéralement, la dernière exhortation du Seigneur à l'église de Laodicée est « Sois brûlante et repens-toi. » Après avoir reconnu qu'ils sont tièdes, ces chrétiens doivent prendre les mesures qui s'imposent afin de devenir bouillants pour le Seigneur. Je continue la lettre. « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Verset 20. Suite à la repentance envisagée des faux chrétiens de l'église de Laodicée, le Seigneur leur lance une invitation empreinte de tendresse et de grâce. Ce verset a été transposé en peinture par l'artiste anglais Holman Hunt. Après avoir réalisé le tableau de Jésus qui frappe à une porte, il a invité ses amis peintres à venir faire leurs observations. Ils se sont donc réunis autour de l'œuvre et l'un d'entre eux a dit « Mais tu as oublié un élément important de la porte, la poignée, où est-elle » Holman a répondu « Cet oubli est volontaire parce que la porte représente le cœur humain et la poignée se trouve à l'intérieur. Pourquoi pas? Cependant, c'est d'abord à la porte de l'église de Laodicée que le Seigneur frappe. Cette image du Christ qui se tient à l'extérieur de l'église sous-entend, d'une part, que l'assemblée dans son ensemble est en pleine dérive spirituelle, et d'autre part, que le Seigneur ne pourra entrer et prendre sa juste place que si on lui ouvre, c'est-à-dire si les membres apostats de cette église se repentent de leur adhésion à l'hérésie gnostique qu'ils ont embrassée. Ce verset de Jésus qui frappe à une porte a été utilisé dans bien des tracts et messages évangéliques pour décrire Jésus en train de frapper à la porte du cœur du pécheur. Il est là, debout, il désire entrer, mais attend qu'on lui ouvre car il n'a pas l'intention de forcer la porte. Même si ce n'est pas exactement ce que ce verset signifie, il n'y a pas de mal à l'utiliser de cette manière car c'est quand même ce que le Seigneur veut nous dire. Jésus veut entrer dans nos vies pour dîner avec vous et moi. Dans l'Antiquité, le repas était le moyen de réunir tous les gens d'une même famille ou d'une communauté pour se retrouver ensemble. Le partage d'un repas symbolise la communion fraternelle. L'offre du Seigneur « Je dînerai avec lui et lui avec moi » décrit une relation intime. Le verbe « je dînerai » s'applique plus particulièrement au souper du soir, le dernier repas de la journée avant la nuit. Ici, il s'agit du banquet des noces de l'agneau, et quand il aura lieu, il réunira autour d'une même table Jésus avec tous les croyants. Je continue la lettre. « Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. » Verset 21. Cette promesse que Jésus fait à tous les croyants qui persévèrent est de les faire asseoir avec lui sur son trône. En effet, Jésus a dit à ses disciples, « Vraiment, je vous l'assure, quand naîtra le monde nouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume. » Et l'apôtre Paul écrit, « Si nous persévérons, avec lui, nous régnerons. » Cette communion des croyants en compagnie du Seigneur sur son trône, dans son royaume et pour l'éternité dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer, surtout que ce trône est aussi celui que Jésus partage avec son Père. Je termine la lettre à l'église de Laodicée et le chapitre 3 de l'Apocalypse. « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Verset 22. Comme pour les lettres précédentes, celle-ci se termine avec la même exhortation. Tous les croyants doivent prêter attention à toutes les vérités enseignées dans les lettres aux sept églises. Ces sept lettres sont importantes pour la compréhension de tout le livre. Elles présentent la situation des chrétiens de la fin du premier siècle et les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Mais elles abordent aussi les problèmes de l'Église d'aujourd'hui et qui sont la perte de son premier amour pour le Seigneur, la crainte de souffrir pour lui, le danger de se détourner de l'enseignement des Écritures, le danger de l'immoralité, de se transformer en un zombie spirituel, de manquer de persévérance et le pire, devenir spirituellement tiède. Ces sept oracles forment une collection uniforme. Elles ont toutes la même structure, mais correspondent à différentes situations. Chaque lettre mentionne le messager de l'Église, la présentation de Jésus, des compliments ou des reproches, ou les deux, des exhortations et des promesses. Jésus n'a aucun reproche à formuler à Smyrne et Philadelphie, tandis que Sardes et Laodicée ne reçoivent aucun compliment. Le Seigneur se présente devant toutes les églises en tant que juge, et la façon dont il s'identifie est en rapport avec la situation de l'Église. Chacune des lettres mentionne le vainqueur, c'est-à-dire le croyant qui persévère jusqu'à la fin. Les promesses qui lui sont faites seront toutes réalisées dans la suite du livre. Le problème qui revient sans cesse est celui de la fidélité dans un environnement hostile. Les chrétiens sont tentés par le compromis et l'hérésie. L'enjeu est la crédibilité de leur témoignage. À l'église de Philadelphie, Jésus dit « Tiens ferme ce que tu as ». Cette exhortation est pour tous ceux qui ont fait confiance à Jésus, car leur appel est de lui rester fidèle envers et contre tout.